Rencontre.
Aujourd'hui, notre grand témoin nous vient des Herbiers, hein, c'est en Vendée. Laurent Gay, vous venez de sortir votre deuxième livre. Il s'appelle « Troubadour d'espérance ». Et j'en profite que vous êtes justement en train de voyager. Un troubadour, ça passe d'un endroit à l'autre pour vous attraper au vol et vous inviter pour être le grand témoin d'Ecclésia. Bonjour Laurent.
Bonjour.
Comment allez-vous ?
Bah, très heureux de pouvoir partager à vos auditeurs un parcours de vie et puis très heureux d'être avec vous ici pour Saint-Esprit.
Votre vie a commencé de manière assez sympa, famille unie, tout va bien, vos parents travaillent, mais tout va pas bien. Vous êtes dans un quartier de Paris, quartier nord, difficile, vos parents travaillent beaucoup, vous ne manquez de rien, sauf de l'essentiel, c'est de vous sentir important à leurs yeux.
Oui, bah, je pense que comme beaucoup d'enfants, on a tous besoin d'être aimés et cet amour était là. Hein. Mais très tôt, j'ai cru que mes parents ne m'aimaient pas. J'avais mon grand frère qui était mon aîné de 6 ans et c'était une époque où les plus anciens vont peut-être se reconnaître. Papa, il rentrait du travail à la maison et puis il allumait la télé, on mangeait devant la télé, on n'avait pas le droit de regarder la télé mais on n'avait pas le droit de parler non plus. Voilà, c'était comme ça.
Un rituel.
Voilà. Il n'y avait pas de méchanceté, il n'y avait pas de... Et puis, eux, ils ont manqué quand ils étaient plus jeunes. Bon, il y a eu une vie difficile pour eux. Et alors, ils ne voulaient pas qu'on manque. Alors, ils n'étaient pas bien riches, hein. On a vécu dans des HLM. Mais effectivement, ce qui me manquait le plus, c'est ce ressenti d'être aimé. Cette affection, voilà. Et ça, ça a entraîné en moi un véritable... vide intérieur. Moi, j'ai cru, quand j'étais petit, que j'étais une erreur, quoi.
Vous étiez baptisé, mais vous n'aviez pas nécessairement de vie de foi.
Ah oui, alors là, au niveau de la foi, maman était croyante, mais elle pratiquait toutes sortes de croyances. Voilà, pas vraiment... Elle n'allait pas à l'église, par exemple. Et mon père, alors lui, il était athée pratiquant. Donc, lui, il ne fallait pas lui parler des curés, il ne fallait pas lui parler de l'église, parce que je sais pas son histoire. En tous les cas, effectivement, j'ai reçu le sacrement du baptême. Mais j'ai jamais appris à prier, j'ai jamais vu personne prier chez moi. Je connaissais pas la prière, en fait. Donc j'ai eu aucune, éducation religieuse.
Et quand on a ce vide intérieur et qu'on ne trouve pas de quoi le remplir, c'est comme si on a très très faim, on se tourne vers quelque chose qui peut nous remplir. Donc on cherche la reconnaissance ailleurs et on va dans ces quartiers, on va voir nos potes. Et vous, malheureusement, vous êtes tombé dans des...
Voilà, alors moi ce qui s'est passé, c'était un petit peu... Donc comme j'étais renfermé sur moi-même avec ces peurs, vous avez souvent la peur... peut provoquer aussi des espèces de troubles obsessionnels ou des formes de traumatisme. Et en fait, j'ai développé une dyslexie. Et la dyslexie, ça a été terrible parce que mon père me disait toujours que j'étais bon à rien, nul. À l'école, je me suis retrouvé en échec scolaire avec des garçons qui avaient déjà redoublé en primaire 3 fois. Il y en avait un 4 fois. Et donc, ces garçons étaient beaucoup plus grands que moi et me faisaient peur. J'étais racketté, j'étais un petit peu le bouc émissaire jusqu'au jour où je me suis révolté. Je me suis bagarré et j'ai pris conscience qu'en me bagarrant avec un des caïds, je suis devenu quelqu'un. Et malheureusement, c'est sous l'influence de ces garçons, une petite bande de racailles, excusez-moi pour l'expression, que j'ai commencé à exister. Et malheureusement, pour exister, j'ai fait n'importe quoi. J'ai fait comme eux en tous les cas.
Donc ça veut dire voler ?
Ça veut dire au départ faire des conneries. Ouais. Voilà, le vol est venu après, mais la drogue... Donc très très tôt, j'ai commencé à fumer du shit, j'en ai vendu pour me payer ma conso, et puis comme ça rend pas bien intelligent quand même, je me suis fait choper, j'ai été renvoyé en 4e au collège, et là les gros problèmes ont commencé, puisque mes parents, les parents ils veulent surtout pas un enfant avec des difficultés, un enfant en échec scolaire, mais ils étaient impuissants. Et puis les choses ont commencé à s'aggraver, puisque vers l'âge de 14 ans, les mêmes copains m'ont proposé des drogues plus fortes.
Donc l'héroïne
L'héroïne, oui. En injection. Et là, comment dire, c'est terrible, parce que c'est le véritable piège. L'héroïne est une véritable courtisane et je suis tombé amoureux de cette drogue. Et quand
pourquoi,
je dis ça,
pourquoi elle est plus courtisane que la marijuana ou autre chose?
C'est beaucoup plus fort. C'est un produit qui rend très rapidement dépendant. Et les effets sont terribles parce que vous avez l'impression d'être anesthésié, en fait, de plus ressentir d'émotions et de planer, on peut dire ça comme ça. Mais en fait, c'est un leurre, c'est un piège parce que très, très vite, on a besoin de retourner dans cette sensation. Et très, très vite, je suis devenu dépendant de cette drogue. Et là, j'ai commencé à vraiment vivre le manque physique, voilà, et puis à devenir malheureusement un vrai toxicomane, quoi. Avec de la délinquance, avec des périodes de cures de désintoxication. J'ai fait beaucoup de cures de désintoxication. Mes parents, je leur ai fait vivre la misère. Mon frère, il savait plus quoi faire pour moi. Jusqu'au jour où je me suis retrouvé au vert un an dans l'Aveyron.
Là, c'est la méga cure, là. Là, on prend les moyens.
C'est la plus grosse cure que j'ai fait. Enfin, voilà. C'était un petit peu ce qu'on appelait à l'époque les babacools. Donc, il y avait des chèvres, il y avait des... Voilà. Et pendant un an, je n'ai pas pris de drogue. Voilà.
Là, vous étiez heureux ?
Oui, j'étais heureux parce que je découvrais la nature, je découvrais... voilà, on refaisait le monde le soir. J'étais loin de Paris, j'étais loin de tout ça. Mais en même temps, j'avais besoin quand même encore de ce qui fait briller les boîtes de nuit, les choses comme ça. Donc, je suis resté sur les plages que vos auditeurs connaissent un peu. Voilà, les plages. Alors, je sais pas si c'est le Gard ou l'Hérault. J'étais à Sète. Mmh. Voilà. Et j'ai commencé à vivre un peu la nuit, à vivre l'alcool, le shit qui est revenu.
Ah oui.
Voilà. Par contre. J'ai rencontré à cette époque-là l'amour.
Ah.
Voilà. Alors moi je savais pas aimer, voilà, j'étais aussi addict malheureusement au sexe, le plaisir. Vous savez, on a tellement besoin de ressentir cet amour que voilà, on remplit ce vide intérieur. La nature a l'horreur du vide.
On est comme un noyer qui se noie et qui se débat dans tous les sens pour essayer de respirer de l'oxygène, mais en fait ces gestes le font tomber de plus en plus.
Exactement. Et c'est pas ça qui pouvait me combler. En fait, aujourd'hui, je le sais, hein, y a que l'amour de Dieu qui peut nous combler. Même si on a des super parents, même si on a un super époux, une super épouse, même voilà. Parce que nous avons été créés à cette image de Dieu et Dieu nous aime et il nous rend capable d'aimer et d'être aimé, en fait. Et il nous rend capable de faire aimer cet amour. Moi, c'est ce que j'essaye de faire aujourd'hui. Mais à l'époque, j'en savais rien. J'étais loin de tout ça et. Mais quand même, j'ai appris à aimer cette jeune fille. Et là, voilà, des rêves. Je suis revenu sur Paris avec l'intention de vivre avec. Et sauf que les vieux démons de la drogue sont revenus.
Les bases n'étaient pas suffisamment solides, en fait, pour construire, c'est ça ?
J'avais pas de base.
Vous aviez pas de base.
J'avais aucune base. Moi, je savais pas ce que c'était vraiment les fondements. Hein. Donc, cette jeune fille m'a rejoint. On a vécu ensemble. Comme les vieux démons sont revenus de la drogue, et ben malheureusement,
ça a été la spirale.
Elle a goûté aussi à la drogue. On s'est drogués tous les deux. Et là, on a vécu l'enfer. C'est-à-dire, on s'est retrouvés à la rue, on dormait dans des squats, dans des caves. Un homme, une femme, jeune homme, jeune femme, on faisait n'importe quoi pour trouver de la drogue. Et ça, c'est horrible. Et à un moment donné, voilà, j'essaye de faire court quand même.
Oui, c'est sûr.
Voilà, on a essayé d'arrêter sur place. On a décidé d'avoir un enfant. Elle est tombée enceinte, elle avait 20 ans, j'avais 24 ans. Et à son quatrième mois de grossesse, on lui annonce qu'elle a le sida. Et donc à l'époque, on n'avait aucun traitement, on pouvait pas garder l'enfant. Donc le jour où on lui a annoncé que elle pourrait pas garder cet enfant, ben tout a basculé dans notre tête. Et on a fait plusieurs tentatives de suicide par overdose et puis la casse prison. Je me suis retrouvé accusé d'homicide volontaire, donc je me suis retrouvé en centre pénitentiaire à Fresnes, en région parisienne. La prison, le lieu des ténèbres par excellence, je dirais. Je me suis retrouvé dans une cellule de 3, on était 4. Et pendant plusieurs semaines, j'ai vécu le manque physique. On m'a fait un dépistage, on dépistait obligatoire, c'était obligatoire. Et on m'a annoncé que j'avais le sida. Donc j'avais pas 25 ans, j'ai passé mes 25 ans en prison. Ma compagne à 20 ans, qui était encore dans la drogue, qui s'est fait prendre par des mecs. Enfin bon, c'est l'horreur. Voilà. Mes pensées ont été envahies de pensées de mort. Il n'y avait plus que, pour moi, la mort qui pouvait peut-être me soulager. C'est horrible de dire ça. Donc je me suis fabriqué, une lame avec ce que je pouvais. Et en pleine nuit, au moment de m'ouvrir les veines, voilà, je ne croyais pas en Dieu. Mais je croyais au mal, je croyais aux œuvres du mal parce que je vivais dans le mal. Mais peut-être par le sacrement de mon baptême, j'en sais rien.
Clairement.
On parle du bon Dieu et s'il est si bon que ça. Alors je lui ai demandé juste qu'il me fasse une place dans son paradis. C'était ma prière, c'était mon cri. Je me suis mis à pleurer. Je ne sais pas pourquoi j'ai pleuré. Depuis l'âge de 8 ans, je n'ai pas à pleurer. Et plus je pleurais, plus je ressentais une paix intérieure, comme une présence en moi. Je crois que j'ai fait une rencontre personnelle avec le Christ. J'ai rien vu comme je vous vois, mais au fond de mon cœur, j'ai vu un visage. Et ce visage a comme impacté, a été gravé dans mon cœur, à tout jamais, je dirais. Et je savais que c'était Jésus. À ce moment-là, Jésus m'a guéri, m'a sauvé. J'ai lâché la lame. Et j'ai commencé à me dire que je pouvais croire aux choses divines, quoi. Dieu pouvait m'aider. Il m'a aidé, il m'a sauvé. Donc,
vous étiez vraiment au fond du trou, là. Hein?
Ah bah là, j'étais au fond du trou, oui.
Mais la remontée n'a pas été immédiate.
Non, c'est pas magique. Je voudrais vraiment dire aux auditeurs qu'il n'y a rien de magique. Mais à partir du moment où on croit déjà, on peut commencer à espérer. On peut commencer à avoir moins peur. Je crois que c'est ça. On peut commencer à avoir confiance. Confiance en la vie. J'avais plus confiance en la vie. Le premier miracle qui a lieu dans mon histoire, c'est que la justice des hommes a reconnu une légitime défense. Donc, je suis sorti avec un non-lieu. Voilà, j'ai fait à peu près un an de prison. Quand je suis sorti, malheureusement, bien sûr, Dieu était en moi. Mais les choses autour de moi étaient toujours les mêmes. Ma compagne était grave malade, l'influence encore des copains, la maladie. Et là, je crois que je me suis retrouvé dans un autre enfer. On m'a arrêté, la police m'a arrêté, j'avais pété un câble et on m'a mis en hôpital psychiatrique. Donc là, on m'a attaché à un lit, j'étais en isolement obligatoire. Hein. Et puis au bout de quelques temps, on m'a mis ce qu'on appelle la camisole chimique. Je suis désolé pour les auditeurs de partager ces moments-là, mais on me donnait la douche, on m'amenait aux toilettes. J'avais 29 ans. Et ça, je crois que j'oublierai jamais d'où je viens. Et puis le sida s'est déclaré à ce moment-là. Encore une fois, il n'y avait aucun traitement à cette époque-là. Donc j'ai été hospitalisé dans un CHU, dans un service de maladies infectieuses. Et là, les médecins, ils ont été très clairs qu'il me restait très peu de temps à vivre. Et un homme visitait les malades.
Il s'appelait comment ?
Paul-Emmanuel.
Paul-Emmanuel.
Paul-Emmanuel, oui. c'est vraiment... Et cet homme-là avait la même présence que je ressentais dans cette cellule quand j'ai fait cette expérience de Dieu.
Et vous regardez comme quelqu'un ?
C'est la première fois qu'on m'a dit que j'étais quelqu'un de bien. J'avais 29 ans. Oui. Ah, il m'a fait pleurer. Hein.
J'avais pensé un peu à Bernadette, sa rencontre avec la Vierge. Elle me regardait comme si j'étais une personne.
C'est ça. Et je crois que ce regard posé, ce regard d'amour, ce regard bienveillant peut sauver un être, peut sauver une personne. Et ben moi, cette personne-là...
Et c'est important ce que vous dites là, parce qu'on croise dans nos rues, malheureusement, des personnes qui sont dépendantes, qui sont dans le fond du trou, et on ne les regarde pas souvent, on a peur de les regarder.
Exactement, c'est la peur, parce que, en fait, on a peur de ce qui nous dérange, en fait. Mais quand on pose un regard, et je crois que ces regards-là, un regard peut relever une personne. En tous les cas, moi, j'ai été relevé par cette personne. Et cette personne m'a proposé d'aller au Vert, dans une communauté qui accueillait des malades fin de vie. Cancer phase terminale, sida phase terminale, une communauté religieuse que vous connaissez bien ici.
Communauté des Béatitudes.
Oui. La communauté des Béatitudes.
À Cordes.
À Cordes sur ciel. Ça s'invente pas. À Cordes sur ciel. Je suis arrivé là-bas, donc j'avais pas 30 ans, dans une maison qui s'appelait la maison Cotolengo, un saint qui s'occupait des malades à l'époque. Et ça a été un chemin de résurrection. C'est-à-dire en quelques mois, l'amour de mes frères et sœurs m'a relevé. Vous voyez ce regard qu'on parlait là, ces paroles bienveillantes, être attentif à l'autre. J'ai pas été jugé, j'ai pas été... Non, j'ai été aimé tel que je suis. Ma compagne n'a pas pu faire le même parcours que moi. Malheureusement, le sida l'a emporté, elle est morte à 25 ans. J'ai pu l'accompagner jusqu'à son dernier souffle. Le jour où elle est morte, Vous savez, l'amour que j'avais pour elle était un amour, voilà, imparfait. Mais tout cet amour, je l'ai donné à Jésus. Et ça paraît bizarre de dire ça, mais c'est ça qui m'a aidé à me reconstruire. Et puis ça m'a permis de m'engager dans cette communauté à la suite du Christ pour aider les autres. Encore une fois, je le rappelle aux auditeurs, il n'y avait aucun traitement à l'époque contre le sida. Donc j'étais en rémission, on va dire, et même les médecins ne comprenaient pas. Jusqu'au jour où on a trouvé un traitement. Et on m'a dit, voilà, avec ce traitement, bien sûr, hein, c'est des traitements, on testait. Mais ils m'ont dit, vous avez quand même une espérance de vivre. Je suis rentré dans le plan que Dieu avait pour moi, parce que Dieu a un plan pour chacun d'entre nous. J'ai appris à aimer, j'ai appris à être aimé. J'ai rencontré mon épouse, voilà, après tout un chemin de deuil pour ma, voilà,
que j'ai fait pour ma première compagne.
On s'est mariés, ça va faire 20 ans qu'on est mariés, alléluia.
Et vous avez eu deux enfants.
Deux merveilleux enfants, les médecins nous disaient qu'on n'aurait jamais d'enfants à cause du sida. Et ben, vous savez, quand humainement c'est impossible, je le dis aux auditeurs, sans me moquer de personne, si humainement c'est impossible, en Dieu ça peut être possible.
Et vos enfants ne sont pas atteints du sida?
Non, mon
épouse votre femme non plus.
Voilà, ma fille a 19 ans et fait sa troisième année de fac à Toulouse. Mon fils vient de rentrer en seconde, il a 15 ans. Mes enfants sont de bons enfants. Et puis on vit littéralement les grâces que Dieu nous promet et on vit le bonheur avec, je le dis, le combat qui va aussi avec voilà comme chaque vie, il y a un combat, mais dans ce combat on est rentré dans cette espérance, voilà, et cette espérance pour moi me tient à cœur, puisque c'est le titre de mon deuxième ouvrage, Troubadour d'espérance, où c'est un baume d'amour, un baume de paix dans les cœurs de ceux qui le liront, puisqu'aujourd'hui maintenant ça fait plus de 15 ans que je travaille comme un témoin, mais dans le monde éducatif, je vais dans les écoles. J'ai jamais été autant à l'école que ces dernières années. En faisant de la prévention, j'appelle ça de la prévention éducation santé pastorale, de la PEPS, pour annoncer d'une manière authentique l'amour de Dieu à nos jeunes. Voilà, en les mettant en garde sur tous les dangers qu'ils peuvent rencontrer au travers de la drogue, bien sûr, l'alcool, mais aussi les dangers des écrans dans lesquels ils peuvent s'enfermer, pornographie, etc., etc. Voilà un petit peu mon parcours, assez rapide, mais que les auditeurs peuvent retrouver dans le livre Arraché à l'enfer. 30 000 exemplaires vendus.
Arraché à l'enfer. Donc ça, c'est votre premier livre, voilà, que vous avez écrit après, en 2005, je crois.
2007, il est sorti. 2007. Exactement. Voilà, ça, c'était c'est mon histoire d'une manière un peu biographique, de ma descente aux enfers jusqu'à où Jésus est venu me relever. Et puis, voilà, dans la continuité, toujours aux éditions des Béatitudes, Troubadour d'espérance. Avec tout un tas de Fioretti, des petits témoignages, beaucoup de citations. Je dirais que c'est un livre pour les missionnaires, d'une certaine manière, pour les éducateurs, pour les personnes qui ont envie de rentrer dans le plan que Dieu a pour chacun d'entre nous. Voilà. Il y a aussi tout un chapitre sur ce que j'ai appelé la culture de mort, et particulièrement les addictions. Voilà, qu'est-ce qu'une addiction? Comment repérer une addiction et comment s'en sortir? Comment aider? Alors là, pour les parents, c'est un outil. C'est un outil qui peut les permettre déjà de savoir ce que c'est une addiction. Et puis, quand on connaît le problème, on peut aider.
C'est voilà. Clair, la solution commence déjà par bien diagnostiquer le problème.
Exactement.
Vous rencontrez des jeunes à partir de quel âge?
En fait, alors maintenant, ça commence de plus en plus jeune, au collège en quatrième. On m'invite. Alors moi, personnellement, je préfère être au lycée. Voilà.
Pourquoi?
Je trouve qu'ils sont un peu plus matures. Il y a déjà une réflexion. Alors ça ne veut pas dire que nos collégiens n'aient pas de réflexion, mais c'est l'âge un petit peu. Voilà, excusez-moi, hein, c'est avec beaucoup d'amour que je dis ça, un peu bébête quand même, hein, dès qu'on parle de choses comme ça, de drogue, de sexe ou de choses comme ça, bon, ça se met à pouffer de rire, bien qu'ils entendent. Hein. Mais pour moi, personnellement, au niveau de la réflexion et du partage qu'on peut avoir, à partir de 15 ans, voilà, j'ai déjà en face de moi des jeunes adultes. Voilà. Alors, je le dis aux auditeurs, hein, pour moi, c'est Don Bosco qui disait ça, mais j'ai pris cette phrase pour moi, voilà, qui disait « La partie la plus précieuse et la plus délicate de notre société, ce sont nos jeunes. Et personnellement, j'ai donné ma vie avec beaucoup d'humilité, sans prétention. Excusez-moi de dire ça. Quand je dis ça, il n'y a aucune prétention. Mais j'ai donné ma vie pour cette génération parce que cette génération, malheureusement, est conditionnée dans un poids de mort. Et si nous, adultes, nous prenons pas la mesure, l'urgence d'annoncer cet amour, qu'ils ont tellement soif d'amour. Voilà. Donc, voilà, encore une fois, ils sont
vous
précieux.
Sentez, vous sentez que le message est accueilli? Est-ce que vous, ça fait 20 ans maintenant que vous, non, 15 ans.
Ça fait 15 ans que je ans témoigne que dans faites. Les écoles, ouais.
Vous avez vu des jeunes, choisir la vie? Grâce à une rencontre avec vous, vous avez des témoignages de ça, vous avez des...
Dans le dernier livre, je donne énormément de témoignages très touchants. Voilà. Et là où je suis très très fier, voilà, il y a un témoignage aujourd'hui de Martin qui est aujourd'hui prêtre pour l'Église catholique, qui m'a entendu alors qu'il était dans une période de sa vie, il fumait, il était un petit peu, il se cherchait, il était un peu perdu. Un copain l'a emmené dans un groupe où je témoignais. Et puis, on a cheminé avec Martin. On a, voilà. Après, d'autres ont pris la main. Il a été accompagné dans des groupes de prière. Et aujourd'hui, ça fait un an que Martin est ordonné prêtre pour l'Église catholique. Alors ça, c'est un témoignage. Mais je pourrais en citer.
Et à la fois, vous voyez des gens qui sont retournés comme une crêpe, mais il doit y avoir aussi les jeunes.
Bien sûr.
Pour qui ça coule comme de l'eau sur le dos d'un canard, quoi.
Alors, je sais pas si ça coule, si
peut-être
ça pénètre
pas.
Pas.
Oui.
En tous les cas, effectivement, il y en a certains, allez savoir pourquoi, qui ont pas choisi la vie.
En tout cas, vous êtes pas chargé de les convaincre, vous êtes chargé de dire,
exactement.
Comme la petite Bernadette.
Exactement.
Et vous êtes disponible pour venir dans les écoles, dans les groupes de jeunes. Donc, je le dis aux auditeurs, pour ceux qui écoutent, si vous cherchez quelqu'un qui peut venir témoigner de sa foi et de son espérance, et de sa compétence sur la question des jeunes et de tout ce qui est addiction, parce que vous êtes spécialisé maintenant dans ces questions-là, eh bien, Laurent Gay, vous pouvez tout à fait venir dans le Gard et dans l'Hérault, dans la Drôme, vous déplacer. Merci en tout cas d'avoir accepté d'être le grand témoin d'Ecclésia.
Merci beaucoup, merci à vos auditeurs.
C'était Rencontre.